Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Patience Ngalula. L'actualité reste dominée par l'évasion à la prison centrale de Makala. Les défenseurs des droits de l'homme déplorent des morts de trop et exigent qu'une enquête mixte et indépendante sur ce qui s'est réellement passé à la prison dans la nuit du 1er au 2 septembre soit diligentée. Les conseillers communaux de la ville de Kalemie ont marché hier lundi. Ils réclament entre autres 8 mois d'émolument, les frais d'installation et la publication du calendrier pour les élections des bourgmestres et conseillers urbains. L'invité de ce journal est Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Il parle de sa détermination à améliorer la bonne gouvernance au sein des entreprises du portefeuille de l'État afin de les amener à jouer les rôles qui est les leurs dans l'économie nationale. Bonjour. Des morts de trop à la prison centrale de Makala. C'est un cri de colère que lancent les défenseurs des droits de l'homme qui exigent une enquête mixte et réellement indépendante sur ce qui s'est passé à la prison dans la nuit du 1er au 2 septembre. Des réactions fusent de partout dans les milieux politiques et des défenseurs des droits humains pour dénoncer les tueries et viols à la suite de l'évasion, d'après eux, de plusieurs détenus de la prison centrale de Makala avec des bilans discordants. Jeff Ngoy pour les détails.
Somme toute, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme rappelle aux autorités congolaises qu'aucun motif ne saurait justifier les violations des droits humains, dont les droits intangibles, en l'occurrence le droit à la vie. Il est important que les responsabilités en soient établies, publie la VSV. Les avocats qui suivent de près les dossiers de leurs clients à Makala dénoncent des viols massifs présumés sur leurs clientes par des hommes en armes et d'autres prévenus, soutenus par certains venus de l'extérieur. Et c'est dans ce désordre que beaucoup se sont évadés, déclare Maître Saranjibou, alerté par sa cliente présumée violée. Pareille dénonciation de l'ONGDH Rescue d'IRC de Maître William Wenga, qui accuse le vice-ministre de la Justice de mensonges sur le nombre de 2 morts, alors qu'il a été contredit après par le vice-premier ministre de l'Intérieur parlant plutôt de 129 morts. Il y a eu plus de 200 morts, 54 blessés graves. Trop, c'est trop, martèle Maître William. Le MDVC, opposition républicaine d'Augustin Bissimwa, s'est dit consterné par le carnage de plus après celui de Wazalendo tué à Goma. Quelques gardiens pénitentiaires nous affirment que tout est redevenu calme et sous contrôle.
Pendant ce temps, la psychose règne toujours dans les chefs de la population des environs de la prison centrale de Makala. Les écoles environnantes ne fonctionnent toujours pas et les parents ont évacué leurs enfants dans d'autres communes par mesure de prudence. Selon un témoin contacté sur place, les crépitements sporadiques des balles continuent jusque maintenant. Suivez Junior Munzila, joint au téléphone par Blaise Shindani Kambala.
Ici, aux environs de la prison centrale de Makala, la situation reste très critique car il y a des coups de balles intempestifs. Bien qu'on a enlevé les barricades, la circulation est toujours timide. Les écoles environnantes ne fonctionnent toujours pas. D'ailleurs, plusieurs parents ont évacué leurs enfants à cause de la psychose qui continue à gagner du terrain. Donc la situation reste tendue. Nous ne savons pas pourquoi. Jusqu'à 16 heures, il y a toujours des crépitements de balles. Donc la situation est telle qu'elle est. On ne sait pas au juste ce qu'il y a. À propos des morts, effectivement, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu vraiment plusieurs morts car le véhicule et les ambulances, même les camions de la police qui ont évacué des morts, ont fait des tours et des tours la journée d'hier.
De l'autre côté, le bureau du ministre de la Justice a été visité par des personnes non autrement identifiées. Selon un communiqué du ministre encore en itinérance en province, il y a eu une intrusion dans la nuit du 1er au 2 septembre dans le bureau du ministre. Il a été observé d'une part que la porte de l'antichambre a été forcée, les systèmes électroniques de surveillance réinitialisés et d'autre part, poursuit le communiqué, une poussière suspecte a été dispersée dans les bureaux. Des enquêtes sont donc en cours pour clarifier les circonstances de cette situation que Constant Mutamba qualifie de malheureuse, œuvre des forces négatives et mafieuses qui se sentent menacées dans la lutte engagée pour assainir la justice du pays. Et puis, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Zemvonde, menace de sanctionner tout magistrat qui entraverait l'application de ses instructions relatives au traitement des dossiers judiciaires. Il annonce des journées portes ouvertes pour passer en revue toute la situation dans le cadre de la redynamisation de l'inspection initiée depuis hier lundi dans les parquets de Kinshasa. Le procureur général est au micro de Jeff Ngoy.
Les magistrats qui sont venus, c'est dans le cadre de discipliner aussi les corps. L'inspection va aller de fond en comble, dossier par dossier, selon le respect dû aux lois de la République et aussi à mes circulaires. Les magistrats, les offices inférieurs de cet office qui seront pris, entre guillemets, la main dans les sacs, c'est-à-dire en dehors de mes instructions, se verra appliquer la loi. Nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie de qui que ce soit, mais nous sommes ici pour concrétiser la volonté du chef de l'État. Et moi, je considère que le seul chef de l'État, magistrat suprême, doit m'inspirer, me donner les orientations telles qu'elles doivent transpirer dans notre action. Et les sanctions que nous prendrons, c'est prévu par les textes, tout ça pour redonner, tant soit peu, je le dis bien, confiance du justiciable en la justice, pour que l'application de la justice soit dite avec le plus d'objectivité possible.
Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits humains ont documenté 400 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, avec 1487 victimes. C'est une des principales tendances que publie le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour les seuls mois de juillet. Dans son communiqué publié hier lundi, le BCNUDH met en cause des groupes armés opérant dans l'est du pays, des éléments des FARDC et de la police nationale. Jeff Ngoy pour les détails.
Les tendances du BCNUDH font état de 767 hommes, 140 femmes, 80 personnes de genre et âge inconnu, 55 garçons, 40 filles et un enfant de genre inconnu, victimes des violations des droits humains. Soit une augmentation de 20% du nombre de violations et d'atteintes documentées par rapport au mois de juin 2024, au cours duquel on a compté plus de 300 cas. Les membres de groupes armés ont sans cesse attaqué les populations civiles dans les territoires de Beni, Masisi, Lubero, Mambasa et Djougou, entraînant de graves violations et atteintes aux droits de l'homme. Le nombre de victimes enregistrées a également augmenté de 24% en comparaison avec le mois de juin, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cela s'explique entre autres par l'augmentation au cours de la période sous révis des cas de violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa au cours des manifestations publiques. Le BCNUDH souligne des cas de viol suivis d'exécution des victimes et enlèvement.
Au Nord Kivu, la vie reprend son cours normal ce mardi à Goma. C'est après une nouvelle journée ville morte qui a plongé hier lundi les activités économiques dans une certaine paralysie. D'autres acteurs dénoncent les violences qui ont accompagné cette manifestation en ayant exacerbé la situation de psychose que vit déjà la cité lacustre. Une ville prise, selon eux, dans une vague d'enclavement due à l'activisme du M23 et à la hausse de la criminalité. Restons au Nord Kivu, où la radio communautaire Soleil, émettant dans la cité frontalière de Kasindi, à 85 km de Beni, a été cambriolée la nuit de lundi à mardi par des bandits armés. Selon son directeur qui livre l'information, les bandits ont emporté tous les matériels de travail, réduisant ainsi la capacité de fonctionnement de ces médias qui éprouvaient déjà des difficultés de fonctionnement en raison du manque de moyens. Ghislain Kasereka Mbakouli Rahi lance un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté ainsi qu'au gouvernement. Il a été joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Nous sommes déjà contrés à une situation difficile dans le traitement des informations à la portée de la population. C'est pourquoi, par rapport à la perte de nos biens, en tout cas nous demandons au gouvernement de nous venir en assistance parce que la radio travaille, elle n'a pas de financement, elle n'est pas payée. Nous travaillons difficilement, c'est une radio communautaire. Nous n'avons plus de matériel, en tout cas de nous venir en assistance à matériel pour nous permettre de relancer avec les activités parce que là, nous sommes en train de mettre difficilement et aux gens de bonne volonté, les organisations non gouvernementales, de nous venir en tout cas aussi en assistance, nous sommes dépourvus. Si vous y arrivez, vous trouverez en tout cas un sentiment de tristesse qui se lit sur les visages des engins, des techniciens, des rédacteurs qui ne savent pas en tout cas sur quel pied il faut se tenir debout.
Dans la province du Tanganyika, marche hier lundi à Kalemi des conseillers communaux. Ils revendiquent entre autres 8 mois d'émolument, le frais d'installation et la publication du calendrier pour les élections des bourgmestres et conseillers urbains. Ils ont déposé un mémo auprès du gouverneur des provinces. On écoute les coordonnateurs du collectif des conseillers communaux de Kalemi, Wilki Wilonja, est au micro de Paulin Munanga.
Nous avons bien sûr été élus sur la même liste que le président de la République, députés nationaux, députés provinciaux. Nous nous mettons dans la rue pour réclamer au nom du peuple congolais qui nous a élus que nous puissions être pris en charge. Nous sommes les conseillers communaux, nous représentons la couche de la population de toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo et actuellement nous sommes sabotés jusqu'à notre triste sort. Nos enfants ne sont pas scolarisés jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas en mesure même de nous faire soigner et de faire soigner nos familles. Nous n'avons ni abri pour siéger, c'est-à-dire nous nous rencontrons dans nos maisons propres à nous, soit les autres sous manguier pour examiner les situations de nos populations parce que nous ne pouvons pas croiser les bras. Donc nous n'avons pas ni local pour siéger, nous n'avons pas les frais de fonctionnement, nous n'avons pas les émoluments parlementaires et tout ça sont à la base de la démarche que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour hausser notre voix afin que le gouvernement congolais puisse prendre la vie des conseillers avec considération parce que nous ne sommes pas les citoyens lambda, nous sommes quand même les élus du peuple.
De même, au Kasaï oriental, les conseillers communaux ont été le même lundi dans les rues de Mbujimayi. Ils ont effectué une marche de colère à partir des croisements des avenues Inga et boulevard Mouzé-Laurent-Désiré Kabila jusqu'au gouvernorat où ils ont déposé leur mémorandum auprès du gouverneur des provinces. Ils réclament leur prise en charge effective par le gouvernement congolais. Étienne Mwamba, président du collectif des conseillers communaux, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Notre marche vise à réclamer ce qui est de nos droits. Nous avons cité les frais de fonctionnement, les frais d'installation et les émoluments. Vous êtes sans ignorer que depuis notre installation le 6 février de l'année en cours, les conseillers communaux vivent maintenant leurs 9 mois sans frais d'installation, sans frais de fonctionnement, sans frais d'émoluments. C'est ainsi que nous décrions le comportement du gouvernement tout haut par ces mouvements de marche. Nous avons marché aussi pour réclamer les élections. Nous vivons dans l'incompatibilité totale entre les bourgmestres nommés et nous, les élus communaux. Les bourgmestres nommés par les décrets loi disent qu'ils ne sont pas redevables à nous, conseil communal. Ils sont redevables qu'à ceux qui les ont nommés. C'est pourquoi, si on veut tenir compte de l'effectivité de la décentralisation, nous devons organiser ces élections au niveau municipal, au niveau de la base, pour qu'il y ait traçabilité des faits entre les législatifs et l'exécutif communal.
Toute autre nouvelle, la RDC veut augmenter les volumes de ses échanges commerciaux avec la Chine, dont les cafés, les cacaos, les piments, l'avocat, les soja outre le minerai et invite les investisseurs chinois de venir faire les business dans l'agro-industrie car la RDC dispose près de 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables. C'est Julien Paluku Kaongia, le ministre du Commerce extérieur, qui a fait cette demande devant les responsables des 300 entreprises chinoises et congolaises qui prennent part au Forum économique en République démocratique du Congo, République populaire de Chine, qui a démarré lundi 2 septembre à Beijing. Plus de détails avec vous, Blaise Shindani Kambala.
Les protocoles d'accord et les partenariats économiques seront signés jeudi 4 septembre 2024 par les entreprises congolaises et chinoises et ce, avant le coup d'envoi du Forum économique Chine-Afrique FOCA 2024 prévu pour ce 5 septembre et pour se clôturer le 6 septembre prochain. Et pour cela, plusieurs chefs d'État africains présents dans la capitale chinoise, dont le Congolais Félix Tshisekedi, vont prendre part à ce grand rendez-vous d'affaires qui sera focalisé sur l'avenir des investissements chinois en Afrique, avec en tête la RDC avec 20 milliards de dollars américains pour une feuille de route 2024-2035. Notons que le 7 septembre prochain, le ministre congolais du Commerce extérieur et son collègue de l'agriculture procéderont à la signature des accords sur l'exportation de quelques produits agricoles vers la Chine avec des préférences commerciales. Prenant part depuis ce matin à la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, Julien Paluku Kaongia a vanté les opportunités opportunités qu'offre la RDC dans différents secteurs. Pour lui, la perception sur la RDC vue de l'extérieur doit interpeller tous les Congolais de ne pas s'autoflageller malgré leurs divergences, d'où nous sommes appelés de bien parler de nous-mêmes afin qu'on parle mieux de nous à l'international, a-t-il martelé.
Actualité internationale.
Forum des coopérations sino-africaines. Pékin veut approfondir ses liens avec l'Afrique. Pékin accueille à partir du mercredi 4 septembre les forums des coopérations sino-africaines FOCAC. Mais de nombreuses délégations sont déjà arrivées sur place avec un peu d'avance. Le président chinois Xi Jinping a donc déjà organisé des rencontres avec certains de ses homologues comme William Ruto, le président kényan.
L'invité.
Les entreprises du portefeuille de l'État congolais ne sont pas des canards boiteux. Il leur manque tout simplement la bonne gouvernance afin qu'elles jouent effectivement les rôles qui est les leurs dans l'économie nationale. C'est Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille, qui l'a dit. Il tient à remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie nationale. Il a défini et fait adopter au dernier conseil de ministres les profils du mandataire public. Jean-Lucien Boussa s'entretient à ce sujet avec Daniel Tambizoni.
Jean-Lucien Boussa, bonjour.
Bonjour.
Après le contrat mandat que vous avez conclu avec les mandataires publics, apparemment, vous n'êtes pas rassasié. Vous avez défini et fait adopter au dernier Conseil des ministres le profil du mandataire public. Comment comprendre cette démarche? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le ministre?
Mais d'abord, comme vous savez, nos entreprises publiques sont un maillon important de notre économie. C'est la colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo. Et le regard que nous avons eu en tant que Congolais de nos entreprises publiques a été un regard plus ou moins sceptique. Et pourtant, ces entreprises regorgent un potentiel immense. Mais pour répondre à votre question, il faut savoir pourquoi les entreprises publiques affichent des performances discutables. Pour être clair, des mauvaises performances. La réponse est donnée par des éléments simples. Parce que la bonne gouvernance n'y est pas forcément dans la plupart des entreprises. Mais pourquoi la bonne gouvernance n'y est pas, alors que les règles sont claires, les lois aussi sont claires, il suffit simplement de les appliquer. Parce que derrière cette problématique se cachent des acteurs, les acteurs de bonne ou de mauvaise gouvernance. Qui sont ces acteurs? Ce sont les mandataires publics. Si nos mandataires publics allient un management stratégique à un management de risque, nous sommes capables de pouvoir faire des entreprises du portefeuille ces vrais boulevards de développement économique et sociale du pays. Derrière donc ces mandataires publics se cachent des critères, un profil, mais qui sont appelés à exercer les fonctions des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des administrateurs, des présidents du conseil d'administration. Je ne dis pas que ceux qui sont là n'ont pas le profil requis, mais je dis qu'il faut normer la question. C'est pour cette raison, pour corriger ou pour régler ces problèmes, dans le futur proche, il faut donc des critères solides, objectifs, pour être porté à la tête d'une entreprise publique, d'un établissement public et d'un service public.
Le futur mandataire public devra avoir des connaissances universitaires, il devra faire preuve d'une bonne stratégie et avoir des connaissances en ce qui est de finance et de l'audit. C'est ce que vous avez défini comme critérium du futur mandataire public.
Tout à fait, ce critérium nous permet finalement de pouvoir nous retrouver sur quatre éléments. Un mandataire public doit avoir le savoir. Et le savoir, c'est défini par un niveau de formation élevé. Deuxième critère, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, son contenu se trouve être une expérience professionnelle ou une expertise aiguisée dans un domaine précis. Nous avons aussi dit que le mandataire doit être recruté parmi les personnes qui maîtrisent la filière. Je parle de la régie des eaux, de l'électricité, de la GECAMINE, de l'ONATRA par exemple. Vous n'allez pas penser que celui qui n'est pas ingénieur ou qui a un profil d'ingénieur ou d'un bon économiste ou ceci puisse d'entre deux jeux porter les meilleurs résultats. Il faut le savoir faire faire. Quatrième élément, et c'est connu de tout le monde, le savoir-être. On nous a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Excellence, beaucoup d'études avaient été faites dans ce pays. Il y a eu des réformes dans les entreprises publiques, vous vous en rappelez, autour de 2009-2010. La plupart de ces entreprises avaient été transformées en sociétés commerciales dont jusque-là l'État congolais reste le seul actionnaire. Et Ces études avaient montré que ces entreprises publiques sont des canards boiteux. Et ce sont ces canards boiteux-là dont vous héritez aujourd'hui. Votre vision que vous impulsez dans la gestion de ces entreprises.
Ma vision en 4 points, mais avec une introduction que j'ai indiquée tout à l'heure. Les entreprises publiques du portefeuille de l'État sont la colonne vertébrale de l'économie de la RDC. Ils sont dans tous les secteurs. Le secteur des transports, routiers, ferroviaires, terrestres, aériens. Le secteur minier, le secteur de la télécommunication. Le secteur financier, Cadeco, Sofidé, et tant d'autres secteurs. C'est véritablement la colonne vertébrale de l'économie. Et ces entreprises ont un potentiel de développement immense. J'ai tout à l'heure indiqué le vrai problème qui se pose à elles, c'est le problème de la qualité du management, de la qualité de la gouvernance et de la qualité de la gestion. Face à ces potentiels, si nous administrons la cure du management stratégique et du management des risques, avec des acteurs d'un profil compatible à notre ambition, nous aurons des réponses très claires. Et moi, je n'utilise pas l'expression « canard boiteux ».
Jean-Lucien Boussa, merci.
Et c'est la fin de cette édition d'information, mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, supervisée et coordonnée respectivement par Pele Kipela Mondo et Élisée Tchukota Tchivueta. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.